J'ai reçu totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai une compagnie au personnage. Quand on combinera les deux, ben, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce dernier numéro des paroles aux auditeurs pour cette semaine. Paroles aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. C'est vendredi 12 novembre 2010, nous parlons sport avec vous. Le vendredi dernier, nous avions évoqué avec vous dans cette émission l'arrivée en RDC des inspecteurs de la Confédération africaine de football qui effectuait une mission d'inspection des sites retenus par la RDC dans le cadre de l'organisation de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2015. Aux dernières nouvelles, et sur instruction du ministère des Sports et Loisirs, la mission d'inspection a été suspendue et la délégation est repartie sans avoir pu visiter les autres sites retenus en province, alors qu'ils venaient de boucler le travail pour le site de Kinshasa. Notons par ailleurs qu'aucune communication officielle sur la suite réservée à ce dossier n'a pas été rendue publique du côté des officiels congolais. Et dans une correspondance adressée hier au ministre des Sports, les comités locaux d'organisation de la CAN déclarent surpris de la décision du ministre prise sans l'avoir associé. Notons que la candidature de la RDC à l'organisation de la CAN 2015 bénéficiait d'un soutien de 2,3 milliards de dollars américains de la firme américaine Intercontinental Development Corporation pour notamment la construction des infrastructures sportives, hôtelières, routières et des communications. Comment restez-vous face à ces dossiers et pensez-vous que la RDC n'a-t-elle pas là perdu les possibilités d'organiser une compétition intercontinentale, en l'occurrence la Coupe d'Afrique des Nations? Nous recevons encore une fois dans ce studio M. Pierre Célestin Tchabalamonambouli, il est notre consultant sportif et membre du comité local d'organisation de la CAN. Marie Chantalumba et Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission, mise en onde par Eric Sidiakala et Pierrot Elamiji, pour la présence fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour à tous. Comme je l'ai dit à l'introduction, les inspecteurs de la Confédération africaine de football qui est arrivé à Kinshasa en vue d'inspecter les sites retenus par la RDC pour l'organisation de la CAN 2015 sont répartis sans avoir visité les autres sites retenus en province comme Lubumbashi, Kisangani et Mbujimayi. Et cela, c'est après avoir fini le travail de Kinshasa et la mission a été suspendue. Jusqu'à ce moment, on n'a aucune communication officielle du côté congolais en ce qui concerne la suite réservée à ces dossiers. Monsieur Pierre Célestin Kabalon-Monambouyou, bonjour.
Bonjour Pierrot,
merci d'accepter encore notre invitation autour de sport et revenir encore sur ce dossier de la CAN 2015. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que les inspecteurs ne sont plus que les seuls Congolais et ils sont rentrés chacun dans son pays ou soit au siège de la CAS?
Bien sûr, Pierrot, les inspecteurs sont rentrés. Je dois vous dire dans quelles circonstances ils sont rentrés dans leur pays. Que nous avons passé ensemble toute la journée de dimanche à inspecter le site de Kinshasa. Il faut entendre par là le terrain où devrait être construit le stade et les hôtels. Nous avons visité les hôtels existants et les centres hospitaliers et quelques infrastructures. Et le lundi matin, le président de la Fédération congolaise de football, qui n'était pas à Kinshasa pendant que tout cela se faisait, était entre-temps revenu les dimanches. Il y avait un dîner qui était organisé à l'intention des inspecteurs de la Confédération africaine de football, que le président de la FECOFA s'était bien fait fort de faire reporter. Et le lundi matin, le président de la FECOFA, accompagné de son vice-président et de deux inspecteurs, ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports en son cabinet. Et le ministre va donc informer les inspecteurs de la CAF de la décision de renier à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 ou en 2017. Et les raisons avancées par le ministre sont les suivantes. 1. La RDC est appelée à organiser les élections en 2011. 2. Elle recevra le sommet de la francophonie en 2012. Et 3. Elle a reçu conseil de la Banque mondiale et du Fonds monétaire de ne plus s'engager dans des endettements. Et pour ces raisons, le ministre demandera que la mission se termine, que les inspecteurs rentrent chez eux. Il instruira la délégation de la FICOFA, conduite par le président Omari, de saisir la Confédération africaine de cette décision. Et ce résumé nous a été rapporté par le vice-président de la FICOFA, juste après l'audience, le raccordé par le ministre.
Voilà, ça dit que le membre, la structure technique qui était mise en place comme le comité local d'organisation de la CAN n'était pas associé à cette causerie entre le ministre et les inspecteurs de la CAF.
Rien du tout.
Voilà, et maintenant, c'est la FICOFA qui doit saisir la CAF pour communiquer la décision, ou bien c'est le gouvernement, parce que je me rappelle bien, la décision d'annoncer à la CAF l'engagement de la RDC pour l'organisation de la CAN 2015 était prise par un conseil des ministres, et c'est une lettre du premier ministre adressée à la CAF qui annonçait la candidature de la RDC. Comment ça s'est fait dans ces cas? C'est la FICOFA qui annonce à la CAF que la RDC se retire, ou bien c'est la même procédure avec le premier ministre qui avait écrit pour déposer, préparer l'engagement de la RDC. Comment ça va se faire? C'est la CAF cette fois-ci, c'est la FICOFA, ou bien c'est encore le gouvernement à travers le premier ministre qui va saisir officiellement la CAF? Comment ça s'est fait à ce niveau-là?
Le Pierrot, c'est de l'autorité internationale, il y a parallélisme de forme, comme on le dit. Et pour ceux qui ne le savent pas, le projet de la CAN en République démocratique du Congo a été initié par les Congolais de la diaspora. Et c'est depuis plus d'un an que cela a été initié. Le projet a été présenté en premier lieu à la présidence de la République. Le bureau du président de la République a mûri le dossier, l'avait ensuite transmis au gouvernement parce que c'était de la compétence du gouvernement.
Mmh.
Et le gouvernement s'est réuni en novembre 2009.
C'était le 20 novembre.
Le 20 novembre 2009 pour prendre la décision de présenter la candidature de la République démocratique du Congo à l'organisation de la CAN 2016. C'était comme ça au départ.
Mmh.
Et la CAF ayant changé de décision, plutôt des dates, le gouvernement a confirmé la candidature par l'entremise de la signature de son excellence, monsieur le premier ministre. Les chefs du gouvernement. Et en même temps, on a constitué un comité interinstitutionnel qui comprend les délégués de la présidence de la République, du Parlement, du Sénat, ou plutôt de l'Assemblée nationale du Sénat, et des ministères concernés et d'autres personnes ressources. Et c'est un comité qui a été mis sur pied par voie légale.
Mmh.
Et dans ces comités, il y a les membres de la Fédération congolaise de football. En définitive, le comité était placé sous la présidence de M. Moïse Katumbi-Tiampoy, qui n'a jamais présidé, non soit dit.
Mm-hmm.
Et voilà que maintenant, ce n'est ni le gouvernement, ni
le comité,
voilà, qui annonce le désistement.
Ben,
on est instruit, la fédération congolaise de le faire, et la fédération faisant partie du comité local, nous estimons qu'il y a une bourde quelque part.
Voilà, et on en va aussi avoir le temps que les auditeurs nous parlent de ce qu'ils pensent de toutes ces histoires et aussi les chances qu'on donne. Est-ce qu'on pense que la RDC va avoir une possibilité un jour d'organiser une compétition internationale? Nous allons en discuter avec les auditeurs qui ont bien suivi cette entrée en matière. Nous allons leur donner la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Victorien, vous êtes à Calémi dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour. Pierrot.
Voilà, Calémi et Lubumbashi, c'est dans la même province. Lubumbashi devait accueillir un site pour la CAN 2015. Vous avez suivi l'introduction dans cette émission et comment tout a été bien détaillé par Monsieur Pierre Célestin qui a balancé en bouillie tout autour de la candidature et ce qui est arrivé. Oui. Qu'en pensez-vous, Victorien?
Oh oui, donc vous savez que même l'autre soir quand l'émission passait du vendredi là, quand on parlait, même l'invité là qui était encore l'autre soir qui parlait à propos de la firme, il y a des auditeurs qui disaient que, en tout cas pour RDC, ce n'est pas possible. Moi, je pense que c'est perdu, d'autant plus que si le gouvernement lui-même avait émis cette intention là d'organiser la CAN par rapport à ce que vous venez de dire là-bas avec les Congolais de la diaspora, je pense qu'il était mieux qu'on commence déjà à préparer quelque chose. Si à l'état actuel de la phase du stade de martyr, on dit que ce n'est pas encore un stade approprié pour abriter la CAN, pour un match de la CAN, je me dis, pour les autres stades, moi j'étais à Lubumbashi, je connais quelques endroits par rapport au stade de la martyr. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens seront là? Parce que le même gouvernement qui avait émis cette idée-là, le même gouvernement qui veut de fermer la page avec les inspecteurs, ils n'ont même pas visité les autres sites.
Alors,
aucun site qui est habité. Est-ce que là, vraiment, on peut espérer?
Voilà
le problème de nos dirigeants.
De
nos dirigeants. Parce que qui veut aller loin, ménage sa mouture. Il ne pensait pas que l'état des martyrs, jusque-là, à son état actuel, n'était pas en mesure d'habiter pour essayer un peu de faire quelque chose.
Ok, la situation.
Ils seront là. Parce qu'ils savaient qu'il y aura aussi une inspection avant même qu'on donne la cour à cette candidature. Voilà un peu nos dirigeants qui ne dorment pas et se réveillent avec une décision. Plus tard après, ils ne sont pas en mesure de répondre à cette obligation-là. Les mal congolais, les mal congolais.
Merci.
Un jour, nous serons très sérieux, sans quand même pragmatiques. Quel est ce que nous pouvons présenter? Aucun stade qui convient, même le stade de Lubumbashi.
Merci beaucoup, Victorien. On vous a suivi. Votre souci, c'est qu'il fallait que tout soit préparé en conséquence. Désolé, parce que vous vous rendez compte que le même gouvernement qui a pris la décision de déposer la candidature, le même gouvernement qui vient arrêter brusquement le processus, comme si le gouvernement ne savait pas qu'il y avait tous ces problèmes à l'horizon. Merci, Victorien. Nous allons à Chikapa, c'est au Kasaï occidental. Joseph, vous êtes en ligne. Bonjour, Joseph.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio papier et à l'invité Pierre de rester pour un grand nombre.
On vous écoute, Joseph.
Oui, Pierrot, comme tous les Congolais, j'étais pas surpris, hein, parce que je savais bien que les choses n'allaient pas évoluer comme on les souhaitait. Vu l'impréparation, il y a eu domicile donc, dans les têtes des Congolais. Alors, donc, les résultats sont là. On est là, certaines personnes qui ont apprenti aussi, mais en tout cas, les conseils est amers. Vraiment, c'est vraiment difficile à avoir un grand pays à la dimension d'un continent, d'un continent, mais un pays qui ne parvient pas vraiment à déconner. C'est très difficile. Nous, je suis peiné personnellement. Ça fait que la RDC ou le gouvernement qui avait déjà pris les dossiers à bras de corps, et c'est même le gouvernement, et en dernière minute, donc démissionne pour dire non, on n'a pas de possibilité. Comment expliquer cela? C'est difficile. Et je suis en train de me plaindre aussi pour notre vieux confrère, qui est un vieux loup dans cette histoire. Il était à Kinshasa, il a vu quand il y avait des préparatifs pour le combat à l'Iforeman. Donc on avait pris des choses au sérieux. Et donc tout le 80 du monde, qui avait découvert la RDC pendant cette période-là qu'on a présaillée. Mais on s'étonne du fait qu'aujourd'hui, il y a un événement très important comme la CAN, alors on passe toutes les choses à la DGR. Tout cela par manque de politique sportive.
Voilà. Joseph, et vous, qu'est-ce que vous pensez là que la RDC a perdu une chance unique d'organiser une grande compétition? On ne peut pas y revenir un jour?
On peut y revenir un jour si on y met vraiment du sérieux. C'est le problème. On y met du sérieux et je pense bien que nous avons les atouts. Et surtout, on pense aussi à vulgariser les sports dans toutes les provinces. Et maintenant, il y a une des sports. Kinshasa et Lubumbashi. Si on veut faire quelque chose, oui, c'est à Kinshasa, le terrain synthétique, à Lubumbashi, tout ça. Mais d'autres provinces ici. Et maintenant qu'on veut organiser une chose, alors on commence à tâtonner. Et alors, c'est pas normal.
Merci, Joseph. Vous êtes à Chikapa, au Kasaï occidental. Vous vous dites que tout ça, c'est par manque d'une politique des sports bien définie, hein, qui pouvait aider à aller de l'avant. Vous faites un constat amer que cela soit arrivé ainsi. Serge, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot.
Voilà, est-ce que vous pensez comme Joseph que c'est le grand problème, c'est le manque d'une politique sportive bien définie qui fait qu'aujourd'hui, après qu'on ait déposé sa candidature et qu'on prenne une mesure brusque d'arrêter tout en chemin, comme on le voit avec cette situation de la CAN 2015, Serge?
En fait, M. Perrault, vous prenez en compte aujourd'hui s'il y a, quand vous dites, aller de ce processus d'organisation d'abord de la CAN et voir comment notre candidature pour la prochaine organisation, bien sûr, les Bénin et Gabon pour 2012, je pense que c'est vraiment regrettable pour ma part. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir comment l'organisation même du football, donc l'actualité footballistique telle qu'elle nous sommes en train de connaître dans notre pays et bien entendu aussi dans les autres provinces, c'est quelque chose que nous sommes en train de déplorer. Il n'y a pas d'abord des quantités assez adéquates qui bien sûr demanderont un découp fatal pour sa organisation et pourquoi pas aussi donc pour qu'aujourd'hui un joueur puisse accéder à des quantités assez équilibrées ou pour qu'il puisse juste voir comment un jeu date de condition de la saison. Et si aujourd'hui, notre pays arrive à des résultats en quelque sorte de les connaître aujourd'hui, et il faudrait qu'on entende encore, qu'on organise un peu l'histoire dans notre pays, ce serait quelque chose que nous devons peut-être encourager. Au-delà de ça, je voudrais peut-être suggérer une chose. Il faudrait qu'il y ait d'abord la performance dans chaque comité sportif. Et s'il faut voir cette, il faut d'abord jouer sur la motivation, qui est aussi un élément pour le monde, un élément crucial pour aujourd'hui on en a. Et je pense qu'aujourd'hui notre pays est capable de donner des images carrément en des résultats qui l'espoir est en train de ternir le football, l'espoir dans notre continent, qui n'est pas à l'époque était en train de donner aussi des résultats tels que nous l'avons connu dans le passé, mais aujourd'hui ce n'est pas l'époque qui est en train de donc en fait et on en arrive à cela. Si du moins cela n'est pas le cas, c'est quelque chose que
voilà, Serge, votre ligne de téléphone semble poser des problèmes. Vous dites au moins que l'image du football africain, en fait, congolais est ternie. Vous pensez qu'on ne peut même pas arriver à la CAN si on n'a pas déjà la volonté de mettre en place des infrastructures qu'il faut. Merci. Vous êtes à Bounia, c'est en province orientale. Les auditeurs de Bounia nous suivent sur 104.9 MHz. Nous restons en province orientale. Héritier, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour Pierre.
Et quel est aujourd'hui le sentiment de la population de Kisangani? Parce que d'ailleurs le lundi, le 8 novembre dernier, la délégation de la CARP devait partir de Kinshasa pour rendre visite à la ville de Kisangani et aussi inspecter les sites sur place. Et quand vous avez appris que ces inspecteurs ne peuvent pas revenir à Kisangani pour visiter les sites, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui dans la ville de Kisangani?
Vraiment, Pierrot, je voulais dire que lundi matin, la mobilisation était totale sur la ville. Parce que la population a dit vraiment après qu'il y en aura les inspecteurs de la SAP qui sera déjà qui sont arrivés le lundi. À l'aéroport, il y avait des gens déjà, il y avait la population. Mais juste après quelques heures, on avait encore appris que l'inspecteur de la SAP n'arrivera plus à Kisangani. C'était vraiment une désolation totale. Ça montre combien de fois que la RDC, jusque-là, on n'est pas encore capable de faire quelque chose de grand. Aujourd'hui, la RDC est un grand pays. En Afrique centrale, il y a des pays comme, des petits pays comme le Ghana, de l'Angola qui arrivent à organiser la CAN. Mais un grand pays comme la RDC, jusque-là, on ne prouve pas de quoi on est capable de faire mieux puisque les autres pays. Donc c'est vraiment désolant. Le gouvernement lui-même qui avait pris la décision d'organiser, parce que les émissions de la semaine passée, il y avait même des auditeurs qui disaient la RDC organisera les élections, la francophonie et puis la CAN à 2015. Quelque chose qui était pratiquement impossible sur le papier. Mais aujourd'hui, on apprend encore que le même gouvernement a retiré la candidature. C'est quelque chose pour moi regrettant qu'on doit essayer de faire le mieux parce que la RDC, on ne sera pas là toujours pour regretter, pour être derrière des petits pays alors qu'on est un grand pays en Afrique centrale.
Merci beaucoup, héritier de Kisangani. Hein. Désolé pour vous à Kisangani, quand vous étiez déjà mobilisé à l'aéroport pour accueillir les inspecteurs de la CAP, et que cela soit arrivé comme ça. Les auditeurs de Kisangani nous suivent sur 94.8 MHz. Nous allons prendre Gabi, qui nous appelle de Kindu. Nous allons aussi prendre Georges Dembouzima et revenir dans ce studio avec notre invité. Gabi, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Vous avez suivi la déception de l'héritier de Kisangani, mais enfin, on a besoin quand même de que les choses soient dites clairement, s'opèrent clairement pour avancer. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a encore la chance pour la RDC de se mettre au diapason et organiser une grande compétition comme la CAN après ce qu'on vient de connaître, Gabi?
En tout cas, monsieur Pierrot, c'est désolant. En pleine communication, je perds dans mon cœur. Parce que je vois que notre pays n'a pas cette volonté ou soit cette foi d'organiser encore la CAN dans notre pays. Comme j'ai suivi mon frère de Kisangani, il a tout dit que les petits pays comme l'Angola, le Gabon, le Ghana organisent la CAN. Que dire maintenant de notre pays? Un grand pays comme celui-ci. Donc, c'est désolant. Et en plus, le gouvernement là qui était le premier à dire que non, nous allons organiser la CAN 2015. Il ne savait pas que le Congo avait déjà refusé une aide venant de l'extérieur pour soit. Il ne savait pas qu'on n'a pas vraiment une infrastructure dans notre pays. Maintenant, j'aimerais poser des questions à notre invité.
Allez-y, rapidement.
Donc, le montant que l'une de l'ordre de l'extérieur qui disait que non, on va construire 4 stades ou 4 sites. Est-ce que le projet est en cours ou soit on a arrêté le projet? Et de deux, le même gouvernement là qui a retiré la candidature aujourd'hui, il ne savait pas qu'on n'a pas vraiment un fonds ou soit. On ne peut pas organiser les élections en 2011 et à francophonie en 2012.
Merci beaucoup. Merci Gabi. Vous êtes à Kindou sur 103.0 MHz. Nous terminons cette première série avec Georges de Bougimaï au Kassai Oriental. Georges, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
D'ailleurs, je crois après que Kisangani, le délégué de la CAF, devait aussi venir en Bougimaï pour inspecter les sites. C'est comme la question que j'ai posée à hériter tout de suite de Kisangani, Georges. Quels sont les sentiments que vous avez quand vous avez appris que les inspecteurs ne viendront plus en Bougimaï, apparemment, et on ne va plus parler des sites de Bougimaï pour accueillir la CAN. Quels sont les sentiments de la population de Bougimaï, Georges?
Personnellement, j'ai été désagréablement surpris, hein, parce que pour moi, les raisons avancées par le gouvernement, parmi les trois raisons, les élections, c'est un prétexte, la francophonie, c'est encore un prétexte, mais le vrai problème, ce sont les institutions de Bretton Woods. Il y a pratiquement une semaine, on a procédé à la hausse de prix.
C'est
encore les institutions de Bretton Woods. Je pense que notre pays n'est pas encore indépendant sur le plan économique. Il faudra se détacher de ces institutions pour que nous puissions organiser la calme ici chez nous.
C'est-à-dire que vous pensez que le problème de la RDC, c'est l'indépendance économique et qui pourra nous permettre un jour d'engager des gros moyens pour organiser la CAN, c'est ça?
Justement, c'est l'indépendance économique.
Voilà, merci. Merci, Georges. Vous êtes en Bougimaï, dans la province du Kassai oriental.
Parole aux auditeurs.
Pierre Célestin Kabalamonamboli, vous avez suivi les auditeurs. Il y a d'abord le sentiment des déceptions. C'est vrai, c'est une grande déception pour ceux des Kisangani qui s'étaient déjà d'ailleurs mobilisés pour accueillir les inspecteurs. En Bougimaï, c'est la même chose. Mais dis-moi, il y a assez que les auditeurs avaient déjà dit la semaine passée. Les uns ne croyaient pas tellement que le projet puisse aboutir. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils ont raison. Mais quand on regarde les inquiétudes des auditeurs, ils se posent un problème. C'est une grande question qui vous est posée. De l'analyse du dossier au Conseil des ministres, jusqu'à suspendre la mission des inspecteurs de la CAF, on dirait qu'il y a un grand problème de dysfonctionnement. Est-ce que le gouvernement qui vous a piloté, vous, mandaté la commission technique, le comité de technique du gouvernement, est-ce que toutes ces raisons évoquées aujourd'hui, les trois raisons, quand on a commencé à étudier le dossier depuis 2009, est-ce qu'on n'avait jamais pensé à ça? Bien, Pierrot, je suis peiné
et d'autant plus peiné que je me mets dans la peau de ces auditeurs et de la population de Kisangani, et le gouvernement n'avait fait que m'appeler personnellement, comme si c'est moi qui décidais, parce que les gens étaient à l'aéroport toute la journée de lundi, et c'est bien dommage. Quant à votre question, je dois dire que tout cela a été bien examiné. Et c'est le gouvernement, à partir de la présidence de la République d'ailleurs, qui avait demandé que les membres de Coltan puissent faire un plaidoyer pour obtenir le financement. Mmh. Et ce plaidoyer a été fait, et vous l'avez bien dit, l'UDC a bien dégagé et disponibilisé avec la Banque of America 2,3 milliards qui ont été d'ailleurs portés à 2,5 milliards. Et quand le gouvernement a exprimé ses inquiétudes quant au degré de pourcentage de l'intérêt qu'il fallait retirer sur le financement, les bailleurs ont pu revoir à la baisse. Donc, le pourcentage était ramené à 1%, et ce qui n'est pas très courant dans ces affaires. Mmh. Et puis, on a fixé à 10 ans le délai du premier remboursement et à 30 ans pour le remboursement de l'ensemble du montant de 2,5 milliards. Imaginez-vous par rapport à ce qui devait être fait dans notre pays avec la chaîne d'hôtels Marriott. Je crois que les Congolais ont déjà entendu parler, et c'est dans beaucoup de pays que cette chaîne a été installée, mais rien que par la gestion de cette chaîne d'hôtels, et qui devait être représentée à Kisangani, en Bujima, à Kinshasa et à Lubumbashi. Mais je pense que pendant 30 ans, on ne peut pas dire qu'une chaîne d'hôtels de ces niveaux-là ne peut pas arriver à rembourser 2,5 milliards. Et en plus, on devait placer les autres installations, les infrastructures qui devaient être construites avec cet argent-là dans les systèmes de remboursement. Donc, on devait avoir une gestion publique-privée pour arriver à faire face au remboursement. Mais malgré cela, parmi les membres du gouvernement, il y en a qui se sont opposés et qui sont allés à l'encontre de ce que le Premier ministre pensait être faisable. Assez dommage, vous avez parlé des dysfonctionnements. On ne fait pas partie de ces instances de décision et on ne peut pas se prononcer par rapport à leur fonctionnement. C'est bien dommage, nous avons subi ce que nous avons subi et le peuple avec nous. Et quand c'est à l'auditeur qui a parlé de la préparation, je voudrais lui dire qu'il n'y a pas eu de préparation parce que on a demandé à la structure de faire le plaidoyer. La structure a obtenu les moyens de financement et je vous apprends qu'au moment où M. le ministre a annoncé cette décision, le bailleur était et il est encore ici à Kinshasa. Bon. Il est venu pour concrétiser, justement, pour matérialiser cela. Et il est venu pour rencontrer les membres du gouvernement, éventuellement le président de la République, pour expliquer comment tout cela devrait se faire. Et ces experts, 11 experts, avec des architectes et des constructeurs, devraient le rejoindre déjà à la fin de cette semaine, donc aujourd'hui. Alors tout cela, on a mis un coup d'arrêt à tout cela. Et c'est un monsieur qui a plus ou moins 78 ans, vous vous rendez compte, il a fait le voyage au Congo, il a beaucoup de projets, et il nous a expliqué que le remboursement ne devrait pas tellement peser sur le gouvernement congolais, parce qu'on devrait développer l'industrie touristique autour de tous ces projets-là. Et il avait même fait un montage avec des possibilités de remboursement, et qui nous avait convaincus. Mais nous qui avons travaillé, nous sommes soutenus maintenant par la décision qui a été annoncée. Que voulez-vous que nous fassions? Et pourquoi dans cette décision, on parlait de la 30e édition de 2015, et apparemment on est parti jusque déjà à la 30e édition 2017, et la RDC ne peut pas, parce que en fait, existe aussi. Et comment on y va de 30e à la 30e édition déjà? C'est-à-dire qu'on sent déjà dans cette décision que la RDC ne peut pas aujourd'hui penser dans un bref délai recevoir cette grande compétition. Pierrot, il faut clarifier les choses, il faut aider les auditeurs à comprendre, c'est-à-dire que la Confédération africaine de football va tenir sa réunion en février pour approuver les candidatures des pays qui doivent organiser en 2015 et en 2017. C'est une réunion qui comprend les deux éditions. Et je voudrais aussi vous apprendre que nous avions toutes les chances possibles, toutes les chances du monde d'organiser, soit en 2015, soit en 2017.
Et là, on leur dit déjà même en 2010, 2017, ne comptez pas sur eux.
Non, mais parce que nous avons désisté, c'est un malheur. Donc, nous sommes partis peut-être pour 2019 ou 2021, mais il faut voir s'ils seront en mesure de le faire. Et d'autant plus que, je vous l'apprends, l'Afrique du Sud et le Maroc avaient toqué à la porte du même bailleur. les mêmes bailleurs avec la vie des banques américaines avaient estimé que la RDC était la meilleure destination de son financement. Et dans la course, nous voulons aussi vous dire que nous étions en fait restés à deux avec le Maroc. Et vous comprenez que l'un ou l'autre pouvait prendre l'une ou l'autre édition. Nous avions toutes les chances. Et tout cela s'envole.
Voilà. Géry, donc Abandoundou et Bénin et Tissé Kinshasa, on vous donne la parole tout de suite après.
Parole aux auditeurs.
Géry, vous êtes en ligne, bonjour. Vous, êtes à Bandundu, ville, vous venez de suivre notre invité Pierre-Célestin Kébalomanambouli, comment il a décrit, dans le désistement de la RDC pour la CAN. C'est pas seulement la CAN 2015, hein, c'est juste en 2017 déjà, on dit à la CAF qu'elle ne comptait pas surnommer. Est-ce que quand vous suivez un peu le cheminement du dossier, comme il vient de l'expliquer, vous pensez qu'un jour, on a quand même l'espoir que la population congolaise pourra vivre, comme on dit, en live, c'est-à-dire qu'en direct, une organisation d'une grande compétition sur le sol congolais?
Oui, monsieur le journaliste, vous savez ce que c'est avant. Vous savez le fait que pour nous, c'est très bien. Mais les inspecteurs ont déjà arrivé au Congo. Ils ont inspecté leur travail. Ça, c'est le premier tour. Dans le deuxième tour aussi, viendra. Mais le problème, c'est quoi? On a inspecté le travail. Dans le problème, c'est qu'au Congo, c'est fait déjà construit toutes les infrastructures qui sont en train de mettre en ordre. Pour faire que si le second inspecteur vient, qui donne un bon rapport par rapport à la publicité et nous, au Congo, et d'autres pays qui est là.
Géry, vous pensez qu'il fallait d'abord qu'on ait des infrastructures et de permettre aux inspecteurs de voir déjà des infrastructures érigées et comme ça ils pourraient avoir un bon rapport à donner. Merci Géry, vous êtes à Bandundu et apparemment votre ligne de téléphone aussi pose des petits problèmes de fond. Ça nous permet de rentrer ici à Kinshasa pour avoir Bénin qui est en ligne. Bonjour. Bénin, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc vous venez de suivre Géry de Bandundu, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue, Yara, à ces dossiers, comme il a évolué jusqu'au moment où il est arrivé?
Oui, Thierry, je partage la même émotion avec tous les auditeurs qui regrettent du retrait de la candidature de notre pays pour cette organisation de la France. Mais j'ai un peu réfléchi sur les raisons. On a parlé des élections 2011, du sommet de la francophonie 2012, et puis il fallait réduire l'endettement auprès de nos bailleurs de fonds. Mm-hmm. Mais ces raisons me semblent raisonnables à mon sens, parce que ce sont vraiment les raisons que le gouvernement a avancées. Parce que les inspecteurs sont venus d'abord pour l'observation des sites. Et je suis vu là-bas, il faut 4 ou 5 stades pour l'organisation de cette campagne. Et puis, vous voyez qu'on dit aujourd'hui que le stade de Marseille ne peut pas recevoir les joueurs pour la carte, c'est vous, ce n'est pas, donc c'est pas correct. Alors quand j'ai fait une réflexion, est-ce que vous évaluez à l'époque le coût de la construction du stade de Marseille et que ce stade ne répond pas aux normes internationales pour la carte? Alors s'il faut avoir 4 ou 5 stades, moi je pense, avec ma réflexion, que ces stades seront mieux construits par rapport au cas de ma fille qui ne peut pas recevoir. Mmh. Alors, à ce moment-là, soyez à la place du gouvernement. Vous voyez d'abord évaluer plutôt le coût des 4 ou 5 fois pour cette organisation. Alors, on montre que ça, c'est pour 2015. Alors, à 2011, le coût électoral, je voudrais que les auditeurs réfléchissent au mieux. Vous savez, tous les besoins d'ici avec les élections, et que ces élections, ils sont au courant que ce sont les bailleurs de fonds aussi qui doivent soutenir avec d'autres partenaires. Ça, c'est le cas. On a parlé du sommet de francophonie en 2012. Je crois que le coût logistique encore de ce sommet peut toujours nous causer des problèmes. Alors moi, je me mets à la place du gouvernement et à évaluer ces événements qui se fixent. Ces événements n'ont l'intervalle que d'une, deux ou trois ans. Alors, pour construire ce champ stade, à Kinshasa et dans les différentes provinces, ça prend d'abord du temps et c'est un coût énorme. Alors, le gouvernement ayant décidé de retirer sa candidature, je ne crois pas que c'est pour causer du tort ou montrer que le pays est irresponsable, mais je m'imagine que ça doit être quelque part une certaine échelle de valeur. Parce que s'il faut qu'on combine et les élections qui seront soutenues, comme je vous dis, par les bailleurs de fonds, et la francophonie avec son coût logistique autant de pays, tout ça. Et puis, le bailleur de fonds nous met en garde contre l'endettement exagéré, parce qu'on venait de réduire la dette avec l'histoire de PPP Constant. En fait, pour me résumer, c'est comme j'ai dit au départ, je partage le regret qu'on ait raté cette occasion, mais que le militaire ou le Congolais garde espoir que notre pays est grand et sa grandeur, c'est la grandeur aussi de situations à régler. Mais ils sont petits et ils s'en sortent de par leur petitesse aussi de l'histoire. Vous avez en termes même de coût à l'arrière national, si vous comptez tous les Congolais qui travaillent, ça coûte. Cher Pierrot, je crois que votre rôle aussi c'est de faire raisonner les auditeurs et les Congolais en ce sens, mais je ne suis pas pour le dénigrement de notre pays, s'engager, se désengager. Mais à mon sens, je crois que le gouvernement a payé le choc de valeur et puis a tiré les événements le plus important, le plus digne pour le pays et puis. Prochainement, on aura l'argent à construire
l'Estade
et puis à s'organiser.
Oui, peut-être ajouter quelque chose. L'inquiétude des auditeurs, c'est par exemple, toutes les études, comme vous l'avez dit, ça dépend en principe, c'est faire en amont et prendre la décision. La manière dont la décision de désister est prise, c'est après qu'on ait demandé officiellement. En fait, moi, je me dis, comme les auditeurs ont pensé, qu'il fallait d'abord peut-être faire l'étude avant de déposer la candidature et se rendre compte qu'il y a toutes ces contraintes et dire, voilà, autant mieux ne pas déposer la candidature, qui est juste la déposer au mois de septembre, la retirer au mois d'octobre.
Il faut aussi savoir que notre pays, avec tous ses partenaires, reçoit aussi les décisions par surprise. Et que c'est ce qui explique que le changement dans l'opinion aussi surprenne. Prenons par exemple le cas des bailleurs de fonds. Ce sont les gens, à mon sens, je le trouve, bon, ils aident, mais moi je le trouve un peu risé par rapport à notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé pour la CAN. Le même gouvernement peut recevoir à l'insu de la population, parce que c'est le gouvernement qui prend le premier contact avec tous ces bailleurs de fonds et amène l'information au peuple par l'entremise du palais des députés, des parlements et tant sorte. Alors, parce que nous recevons l'argent d'ailleurs, on peut avoir une pression alors qu'on s'était déjà engagé. En fait, je ne peux pas me faire l'avocat du gouvernement, mais je suis en train de vouloir apaiser les déceptions de tous nos auditeurs, moi-même, je fais partie.
Merci.
Alors, je voudrais juste dire que certaines décisions brusques viennent aussi des décisions brusques de nos partenaires. Alors, quand ça se manifeste au niveau de la population, le gouvernement est taxé d'imprévisibilité, d'improvisateur. Le grand problème que nous avons au pays, c'est que nous sommes toujours derrière le bailleur de fonds dans tous les domaines.
Merci bien.
Et là, il faut garder espoir que ça pourra finir, malgré que ça doit prendre beaucoup d'années.
Merci bien.
Le gouvernement doit chercher à s'autosuffire dans beaucoup de domaines parce que c'est un cas qui
ridiculise
le pays, comme le disent tous les
auditeurs. Merci, Benon. Vous êtes ici à Kinshasa. Caleb est à Goma, Eric est à Lubumbashi. Nous avons un mail qui vient d'Antonio de Lubumbashi. La RDC n'est pas encore prête pour organiser un grand championnat africain. Il pense aux raisons financières qui ne lui permettent pas d'y arriver. Caleb, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Vous avez
Caleba, Caleba,
oui, voilà. Caleba, vous avez suivi notre auditeur de Kinshasa, votre prédécesseur Bena, il a présenté, il a pesé le pour et le contre, et il pense qu'on ne peut pas s'engager sur autant de fonds à la fois. Cela ne peut pas permettre aussi au pays de s'en sortir. C'est l'une des raisons qui permet que le gouvernement désiste quand il s'agit de la fin de 2015. Et qu'est-ce que vous pouvez compléter au-delà de ce que Bena vient de dire, Caleb?
Oui, alors, M. Pierrot, j'ai bien suivi mes prédécesseurs, et j'ai bien suivi l'invité dès qu'il est entré dans le studio. Bon, retenez que M. Pierrot, c'est une grande inquiétude de la population de Goma depuis que ce message nous est arrivé, monsieur. Ici, chez nous, à Goma, dès qu'on avait recueilli le message que non, les Congo vont organiser la CAN 2015. C'est un message de joie. Mais on se pose la question. Est-ce que le gouvernement congolais sera en mesure d'organiser cette CAN-là? Quelle est la prévue? Pourquoi? Parce que, pourquoi on s'est posé cette question? Parce que
nous, peuple congolais, nous voyons comment est-ce que les gouvernements congolais ne répondent pas même à 10% de social de sa propre population. Comment il peut se livrer à de tels gestes d'aventure? C'est pourquoi on dirait que ça sera un rêve pour le peuple congolais si cela aura lieu. Et aujourd'hui, c'est là vraiment c'est une forme de discorde entre le peuple de Goma. Il y a ceux qui disaient non, cela n'aura pas lié. Il y a ceux-là qui disaient oh, cela aura lieu. Mais ceux-là qui disaient que cela n'aura pas lié ont pleinement raison. Parce que nous venons d'assister au retrait des candidats du gouvernement congolais. Ce que je peux seulement dire, comme la preuve à cette émission, je dirais seulement au gouvernement congolais, si le gouvernement congolais est habitué à mentir devant le peuple congolais,
Taleba, s'il vous plaît, nous sommes dans une émission publique. On n'a pas besoin de vanter, on n'a pas besoin de propos qui ne sont pas courtois sur les antennes. On fait un échange, un partage hein, pour qu'on puisse avancer et donner des pistes des solutions. Et c'est le même pour tous les auditeurs. Hein. On a besoin des idées constructives dans l'émission, mais on n'a pas besoin vraiment de propos discourtois sur les antennes. Nous terminons cette série avec Eric qui est à Lubumbashi. Eric, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à notre invité.
Voilà, et qu'est-ce que vous proposez hein, à la RDC pour qu'enfin elle puisse réussir à organiser une grande compétition comme la TAMU, égard à tout ce qui a été dit, toutes les inquiétudes ont déjà suivi, mais qu'est-ce que vous proposez?
Oui Monsieur Pierrot, contrairement à l'auditeur qui a précédé, Taleba, moi je pense que le mieux à faire serait de commencer par construire les infrastructures. Nous ne pouvons pas aller pointer les doigts, montrer aux inspecteurs, non, ici nous allons construire un stade, ici nous allons construire l'hôpital, pendant que le lieu qu'on pointe les doigts est plein de brousse. On ne voit même pas le début des travaux. Je pense qu'il faudrait tout simplement d'avoir une petite organisation suffisante, M. Pierrot. Vous savez, moi je suis ici à Lubumbashi, j'observe Moïse, ce qu'il fait, cela ne veut pas dire qu'il a beaucoup d'argent de plus que le gouvernement. C'est juste ce monsieur qui est très bien organisé. Moi je me suis en train de construire le stade, je passe là-bas presque tous les jours. Si vous voyez la vitesse avec laquelle les travaux se déroulent, vous n'allez pas vous imaginer. Tout ça parce que Mazembe est en train de faire un nom, et il y a nos infrastructures qui sont en train de suivre aussi, à la trempe des noms qu'il a déjà fait. La RDC a déjà raflé deux coupes de la CAN et la Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'avons pas des infrastructures. Aujourd'hui, ailleurs, nous allons à Zambie, même ici à Tanzanie, nous n'avons plus de considération, nous les Congolais, à partir de ce que font nos dirigeants. Nous n'avons plus de considération. Aujourd'hui, ici à Lubumbashi, les Sud-Africains sont considérés comme des petits dieux. Moi, personnellement, je suis complexé devant un Sud-Africain. Parce qu'ils nous répondent toujours des choses sur notre gouvernement, ils nous parlent de leur organisation, ils nous parlent comment eux, ils sont conquêtes pour nous. Nous avons honte, M. Pierrot.
Voilà.
Pourquoi ils peuvent nous faire ça? Pourquoi ils peuvent nous faire ça? Pardon, M. Pierrot, avant de prendre une décision réfléchie, on se met autour d'une table, on examine les choses, on voit les barrières de France. Non, je pense que la RDPP construit les infrastructures même avec le fonds du pays, sans qu'il faut compter sur les barrières de fonds. Il y a de l'argent ici, on le fait ici.
Voilà. Merci Eric, hein, on comprend votre émotion, mais votre souci était que la RDC se mette encore, réagisse en amont plutôt que prendre une décision et l'interrompre en cours. Merci Eric, vous êtes à Lubumbashi. Avant de remettre la parole à notre invité, nous lisons les messages électroniques qui nous est envoyé des gens des dieux qui nous écrivent de Belgique. Ils disent ceci, selon les analyses, en suivant l'évolution de ces dossiers pour la candidature de la RDC et pour la CAN 2011, comme cela c'est je l'ai suivi sur Radio Capi, je pense que c'est impossible. Hein. Heureusement que le pays vient de se retirer. Hein. Et quand nous manquons les moyens pour faire voyager les inspecteurs de la CAN, et là, pour moi, c'est une honte. Il dit ceci, le gouvernement a l'ambition de se faire montrer au monde qu'il commence à décoller, c'est bien, mais il ne faut pas être gourmand, cela veut dire chercher à organiser beaucoup de choses à la fois. Tantôt c'est la francophonie, tantôt c'est la CAN, il y a aussi les élections à gauche. Pour lui, il pense qu'il fallait d'abord penser à mettre sur pied des infrastructures de base comme des hôtels, des routes, route et avant de penser à inviter les inspecteurs de la CAF. Il y a aussi Bwana Masala qui nous écrit de l'université de Kamina au Katanga par message électronique, bien sûr. Je pose la question à l'invité de savoir, au cas où la CAF n'accorde pas la RDC, l'organisation de la CAN 2015, les projets de construction des stades va-t-il continuer? Sinon, ça va s'arrêter. Et pourquoi, quel est l'essor alors réservé à tous ces sites de la RDC? Et je trouve la chance de la RDC réduite. Il a déjà posé la question. Hubert Deboukan vous dit, c'est si mieux vaut tard que jamais. L'ambition de ma patrie d'organiser la CAN n'est pas une mauvaise idée, mais nous devons savoir qu'il faut très bien sceller son cheval quand on prépare un voyage. Notre projet de budget 2011 n'ayant pas prévu une quelconque réhabilitation d'un stade, moins encore une construction de forces sportives sur toute l'étendue du territoire, j'ose croire qu'il serait prudent qu'en 2012, l'autorité budgétaire pense à construire un stade remplissant les conditions olympiques sur chaque site ciblé par la FECOFA, et comme ça, on pourra penser présenter la candidature. Dombele Silva, qui nous écrit par un bien sûr, des lois en Angola, dit ceci, la RDC ne peut pas laisser passer cette occasion quand elle est célèbre comme un grand pays de football en Afrique. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit par message électronique. Nous allons remettre la parole à notre invité parce qu'on a eu beaucoup d'intervenants et beaucoup de messages et qu'il est le temps aussi de répondre aux uns et aux autres.
Parole aux auditeurs.
Pierre Célestin Kabbalamanamboui, nous avons beaucoup d'auditeurs qui ont parlé avec beaucoup d'émotion, mais il y en a aussi qui ont pensé à des lieux comme Bénin, des Kinshasa qui pensent que ce n'est que normal qu'on ne peut pas s'engager sur beaucoup de points à la fois. Et aussi, les auditeurs qui nous ont écrit, les avis sont toujours partagés, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour un jour qu'on puisse réussir quand même parce qu'on en a besoin?
Bien, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il fallait quand même commencer quelque part. Je crois, en prenant Bénin, tu as parlé de l'évaluation, mais cette évaluation doit se faire dans les temps et dans l'espace. Et en faisant l'évaluation, l'on doit savoir qu'est-ce que chaque événement doit apporter à la population, à l'ensemble du pays. S'il est vrai que nous devons organiser des élections avec l'apport de bailleurs de fonds, eh bien, les élections, c'est une dépense énorme, c'est là, il est vrai, mais après les élections, est-ce qu'on va continuer à rester comme ça en croisant les bras? Et nous savons que le sommet de la francophonie, ça, ce sont des dépenses de souveraineté et quelque part de prestige. Alors qu'ici, il s'agit d'un investissement qui est de développement et qui doit apporter de l'emploi au pays et qui doit également générer de recettes. Et quand on construit 4 hôtels des niveaux de l'hôtel La Chaîne Marriott, quand on construit des installations sportives omnisports et de bâtiments, des salles de jeu et des bâtiments pour la formation des cadres du sport. Mais c'est un investissement. Ce qu'il fallait peut-être, c'est que je peux y dire, c'est vrai que si cela n'a pas été mûri suffisamment, il fallait alors reporter légèrement et non pas se désister totalement. Et je crois que c'est cela qui m'amène à la question de M. Boina, je crois, qui demande
qu'on va se taire, est-ce que les salles seront enfin construites ou bien les projets enterrés,
c'est fini. Et voilà, et c'est parce que la manière dont on l'a dit, en quelque sorte, c'est une manière qu'il condamne tout. Monsieur Miller, le patron de l'UNEC, a même proposé que ce projet soit piloté et avec des partenaires privés qui voudraient bien se mettre là-dedans. Et qu'on fasse un partenariat public-privé. Parce que c'est l'État qui doit donner, par exemple, le terrain, et il faut qu'il y ait des contrats dans ce sens-là, et les terrains, nous les avons déjà dans chaque province. Chaque province a pris des dispositions pour indiquer le terrain sur lequel on devait construire. Et M. Miller a bien dit que si le gouvernement n'est pas en mesure de le faire, on constitue alors, on crée des sociétés, et avec un partenariat avec l'État, pour pouvoir cheminer le dossier, parce que l'argent est déjà disponibilisé. Quitte à ce qu'on voit concrètement de quelle manière y parvenir. Bon, et en plus, lorsque des amis disent qu'il fallait qu'on se prépare, qu'on ait des installations, non, ce n'est pas comme ça que ça se fait au niveau de la Confédération africaine de football. La CAF a pour mission de favoriser la promotion, le développement du football à travers tous les continents. Et les pays qui n'ont pas des installations, on les incite justement à se créer des installations nécessaires pour le développement du football. Et quelqu'un l'a dit, avec raison d'ailleurs, que notre pays a gagné deux fois la CAN et une fois le CHAN. Et Mazembe, nous le gagnons où? Ailleurs. Vous croyez que ça fait plaisir aux autres Africains? si vous allez remporter et que vous ne savez pas accueillir. Pourtant, nous nous disons que nous sommes un pays d'hospitalité légendaire, nous sommes, mais que nous soyons incapables d'accueillir aussi les autres chez nous pour leur montrer notre hospitalité légendaire. Et nous sommes un pays post-conflit, s'il vous plaît. Un événement majeur comme celui-là, il apporte les éléments de paix et de coexistence. Il fait oublier, il fait penser les plaies de guerre dans les masses. Tout cela devait être également évalué et capitalisé.
Voilà. Il y a par exemple John qui nous écrit, John Angova qui est à Kampala, il dit ceci, c'est une responsabilité de la part de notre gouvernement, car comment expliquer que c'est le même gouvernement qui a pris la décision d'organiser la CAN et qui dans un laps de temps puisse encore prendre la décision de ce soir. Alors, pour lui, il pense qu'il n'a pas assez de volonté politique pour réussir. Mais nous avons une question de Michel de Kinshasa, qui nous écrit aussi par Internet, qui dit ceci, comme les inspecteurs sont répartis dans cette confusion, et les rapports ils vont faire, hein. Qu'est-ce que cela va advenir pour le football congolais? Ils s'inquiètent un peu de savoir qu'est-ce que la CAF va dire, comment est-ce qu'ils vont traiter les dossiers, et prochainement, si jamais la RDC vient encore se pointer, comment ça fait se faire? Voilà un peu son inquiétude.
Mais voilà, justement, nous avons commencé par dire que c'était une bombe, à notre sens, et ça va être un peu compliqué. C'est vrai que la CAF est constituée des sportifs, ils ont le sens de faire play, mais ça me paraît assez difficile. Je crois que le premier à s'inquiéter sur ce plan devrait être la Fédération Congolaise de Football, qui, à mon avis, ne semble pas avoir évalué le degré de ce que nous avons maintenant comme ridicule aux yeux de la Confédération africaine et des autres pays africains. Je crois que c'est son rôle maintenant de jouer pour récupérer la crédibilité de la RDC vis-à-vis de toutes ces instances sportive continentale.
Voilà. Franck, vous êtes à Kananga, à Mani et à Uvira, c'est en province de Sud-Kivu. On vous donne la parole tout de suite. Vous êtes même le dernier auditeur de cette série.
Parole aux auditeurs.
À Mani, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, on vous prend. Hein, c'est la fin de l'émission. Votre proposition pour permettre à la RDC quand même de retrouver la place des choix dans l'organisation des grandes compétitions, comme on termine l'émission. Quel est votre point de vue, Amani?
Ok, ma préoccupation est la suivante. Pour ma proposition, oui, je demande aux dirigeants
de voilà, on a un problème de ligne avec Amani qui est à Ouvira. Ça nous permet de donner la parole à Franck. Peut-être Amani peut se déplacer un petit peu. Les réseaux posent problème. Franck, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
On vous prend à la fin de l'émission. On se rappelle que dans l'émission de vendredi passé, vous étiez très pessimiste et que ça ne pouvait pas réussir l'organisation de la CAN. On vous écoute, Franck.
Effectivement, Pierrot, comme je l'avais dit autrefois, que la RDC cherchait seulement à marquer son nom. Alors, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le directeur Célestin Kabalava me contredit. Mais je vais directement aux autres solutions pour ne pas parler encore de ce qui peut passer. Moi, je voudrais, ici, chez nous au Congo, si on veut faire valoir, surtout les sports en général, tout le football, il faut vraiment avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Je donne l'exemple, parce que vous savez, le ministère des sports doit être dirigé aussi par un sportif. Quelqu'un qui est connu, qui a fait vraiment, gagnant en matière sur le plan d'encadrement des équipes. Aujourd'hui, si on a par exemple un ministre de sport à la personne de ministre Katumbi, je crois que beaucoup de choses pourront changer. Si on prend les spécialistes, les gens qui ont dit maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? On prend les gens qui ne s'intéressent même pas au sport, qui pensent au sport que les jours où il y a maintenant des jours ou peut-être il y a l'équipe nationale qui joue. Mais quand vite le jour avec soit Dragon, on peut faire ces gens-là au stade. Donc les gens pareils sont les noms à la tête de ces ministères-là. Je ne crois pas que les services vraiment plaider pour qu'il y ait un avancement sur le niveau de l'infrastructure sportive.
Merci beaucoup, Franck. Vous êtes à Kananga. Pour vous, il faut nommer des gens qui ont l'esprit sportif dans au ministère des Sports. Sinon, ça ne peut pas marcher. On termine avec Thomas Dembouzumaï qui nous explique ceci par Internet. Cette affaire montre en suffisance que le gouvernement congolais n'arrive pas à réaliser ses promesses. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs qui, de l'extérieur du pays. Nous avons tenté par vous joindre de tous les moyens. Les réseaux n'ont pas permis pour vous tous qui êtes à l'extérieur. Pierre-Célestin Kabalomonambouli, on termine l'émission. avec les préoccupations des auditeurs, comme le dit Franck, que le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent rien de sport, se retrouvent dans les instances sportives. Est-ce que cela peut aussi résoudre le problème et ça vous permet dans 2 minutes et demie de conclure cette émission?
Bon, ça peut résoudre, d'autant plus que quand on est qualifié, on a la possibilité de convaincre. Et on le fait aussi dans le respect des règles de l'art. Et si on n'est pas très initié, lorsqu'on tâtonne, on ne peut pas arriver à convaincre, voilà.
Voilà. Et cette fois, comme l'a dit notre auditeur qui a posé la question, quand est-ce que la CAF va se réunir pour donner suite à ce qui s'est passé en RDC? Est-ce qu'il faut que la CAF attende une correspondance officielle ou bien c'est juste après cette rencontre que la CAF doit se prononcer?
Non, d'autant plus que c'est la fédération qui est, ce que je peux dire, l'interface de la Confédération africaine, c'est déjà un élément qui est pris en compte. Je crois que la RDC est déjà out et que la CAF va devoir se prononcer en février pour les autres candidats qui sont restés en liste.
Voilà, merci. Le ministre a pu charger la FECOFA d'écrire à la CAF pour annoncer le retrait de la candidature. Merci beaucoup, M. Pierre-Célestin Kabalomanambouyi, d'avoir accepté deux fois de venir dans cette émission pour éclairer l'opinion de nos auditeurs sur les questions sportives.
C'est moi qui vous remercie. Émission...
Voilà, nous disons aussi merci aux auditeurs. Vous étiez très nombreux sur la ligne notre standard. On a fait des sonnets depuis le début de cette émission et aussi surtout ceux de l'extérieur. Malheureusement, on n'a pas eu la facilité de vous joindre pour intervenir. Mais nous vous disons tous merci de nous avoir suivis. On va se retrouver le lundi prochain et nous allons parler du secteur de l'enseignement primaire et secondaire professionnel. Il y a quelques mouvements de grève observés dans certaines écoles à travers le pays. C'est comme et dans la ville de Goma, au nord Kivu, Butembo au nord Kivu, la ville de Bukavu au sud Kivu, Uvira au sud Kivu. Il y a eu aussi quelques mouvements de grève à Kindu, au Maniema, en Bujumaï, au Kasaï oriental et à Guémena, dans la province de l'Équateur. Pour citer seulement ces quelques endroits, nous allons en parler avec vous. À la base, les enseignants qui réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Cela nous pousse à vous poser une question pour témoigner de comment ça se passe dans votre milieu depuis le début de la rentrée scolaire 2010-2011 et vos propositions pour améliorer la vie dans ce secteur. Soyez nombreux à réagir à p1@radiocapi.net. Marie-Chantal Lumba et Nicole Ngata à la réalisation de cette émission mise en onde par Eric Sidiakala. Pierrot et la Méji vous l'a présenté, mais n'oubliez pas que vous allez la retrouver sur www.radiocapi.net et aussi elle est en rediffusion à 20h. Heure de Kinshasa, 21h, à l'est et au centre du pays. Pour le moment, il me reste à vous souhaiter un bon week-end en compagnie de Radio Capi. Thank you.